Et nous voici ensemble pour une nouvelle émission dans cette série sur la thématique de l'espérance aujourd'hui à travers les textes bibliques. Alors, on est encore dans cette introduction de cette série d'émissions en votre compagnie, Philippe Delaize, bonjour.
Bonjour.
C'est avec plaisir que je vous retrouve pour poursuivre sur cette thématique. Dans notre dernière émission, on a parlé de la fiabilité et de l'authenticité de la Bible en expliquant ce qu'elle était. On va également se pencher maintenant d'un point de vue un petit peu plus historique pour savoir quelles sont les preuves qui valident l'authenticité, cette fois-ci, de son récit.
Comme je l'ai dit la dernière fois, comparé aux textes d'autres écrivains historiques ou philosophes, il y a dans un premier temps plus de 20 000 copies de textes, ce qui n'est pas rien. Ensuite, nous avons des preuves archéologiques. Tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas à proprement parler de l'archéologie biblique, mais bien de l'archéologie. Nous l'appelons biblique lorsqu'elle fait mention de sites, de personnages ou vestiges qui sont relatés dans la Bible. Et certaines découvertes archéologiques en Israël, en Turquie, en Syrie et en Égypte sont quand même venues confirmer l'existence d'événements ou de personnages dont, pendant des siècles, seule la Bible avait gardé le souvenir. Dans ce sens, l'historicité de la Bible est en général acceptée par tous.
Vous auriez un exemple à nous donner dans ce cadre, à savoir des éléments présentés dans la Bible comme faits historiques et que des découvertes tardives permettent de corroborer ?
Oui. Je vous cite un exemple. Certaines personnes considéraient que la Bible était dans l'erreur. Elle faisait mention d'un roi moabite dont l'existence n'a pas été prouvée. Il a fallu attendre l'année 1868 où le pasteur alsacien Klein découvre une stèle d'environ 1,20 m de haut sur 80 cm de large. Actuellement, elle est facile à voir. Cette pierre se trouve au musée du Louvre au département de l'Antiquité et elle est datée d'environ 900 ans avant Jésus-Christ. Et sur cette pierre, il est écrit « Je suis Mécha, le roi de Moab. J'ai fait ce haut lieu pour Dieu Kamosh, il m'a sauvé. Omri, roi d'Israël, avait opprimé Moab pendant longtemps, et son fils aussi, mais j'ai triomphé de lui et de sa maison. » Et nous trouvons dans la Bible un texte, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, verset 4, qui fait référence à ce roi moabite. Je vous le cite. « Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. » Et dans le premier livre des rois, au chapitre 16, verset 16, nous trouvons ceci. « Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour le roi d'Israël, Omri, chef de l'armée. » Et un peu plus loin, au verset 30, « Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été devant lui. » Je vous cite un autre exemple. À Césarée, en 1961, un archéologue italien découvre une pierre soutenant une marche du théâtre de cette ville. Et lorsque les archéologues ont déchiffré cette pierre écrite en latin, « À Tibère Ponce Pilate, préfet de la Judée ». Et jusque-là, la découverte de cette pierre seule, la Bible faisait mention de Pilate. Vous voulez peut-être un troisième exemple ? Concernant les Hittites, les savants ignoraient presque leur existence et la Bible les mentionne comme un grand peuple. Or, en 1887, une paysanne met au jour des tablettes d'argile écrites en acadien. Alors, je ne vous parle pas, bien sûr, ici de l'acadien français d'Amérique du Nord, mais l'acadien, écriture cunéiforme d'origine babylonienne. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme a été long. Et les premiers éléments pour la traduction du cunéiforme sont avancés en 1802 par un philologue allemand, Georg Friedrich Grotenfeld. Et nous pouvons, grâce à ces découvertes, comprendre que ces tablettes font référence aux activités militaires du roi Hittite, qui échangeait des courriers avec le pharaon d'Égypte. De ce fait, les Hittites sont entrés sous les projecteurs de l'histoire. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres exemples. Ces pierres me rappellent une phrase de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 19. Il est dit ceci, « Jésus dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. »
Voilà donc pour ces quelques exemples concernant ces événements historiques qui ont été prouvés par des découvertes on peut dire archéologiques. Quelque chose à rajouter sur ce point ?
Ah oui, oui, il ne faut pas oublier non plus Qumran en 1947, où nous avons cette fameuse découverte de plus de 800 manuscrits. Dans ces rouleaux, la découverte la plus importante est celle du livre du prophète Isaïe. Le texte est écrit en 54 colonnes sur 17 feuilles de cuir cousues ensemble bout à bout, d'une longueur environ de 7,30 m. Il a été daté au début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il est exposé au Muséum de Jérusalem actuellement. Et cette découverte authentifie l'époque de sa rédaction. Mais le plus formidable, ces écrits correspondent exactement à ceux du livre d'Ésaïe qui circulent dans les écrits hébraïques 2000 ans plus tard, ce qui démontre la fiabilité des copistes. Et tous ces éléments historiques que nous vous avons présentés démontrent l'authenticité de la Bible.
Alors la Bible relate des faits historiques dont on sait qu'ils sont réels aujourd'hui, mais qu'en est-il des textes prophétiques ?
Les prophéties bibliques, là il y a un trésor. Elles sont données par Dieu en amont. Et elles se confirment à travers les siècles, car nous les comprenons au moment où elles se réalisent, et par conséquent, nous avons la preuve, là aussi, de leur authenticité.
Alors pour les textes prophétiques également, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de prophéties qui se sont réalisées ?
Oui, je vais vous citer trois exemples de prophéties, de trois prophètes différents. Elles concernent toutes les trois Babylone. Babylone, la plus grande ville de l'époque, 1012 hectares entourés par un mur de 27 km de long. Mais en fait, elle était protégée par trois rangées de murailles d'une largeur de 6,50 m et des fossés alimentés par l'Euphrate qui traversait cette ville. Et l'on estime environ que 100 000 habitants y vivaient. Bref, une ville colossale pour l'époque. La première prophétie se trouve au chapitre 50 du livre du prophète Jérémie, qui exerce son ministère à partir de 627 à 580 avant Jésus-Christ. Je vous cite le verset 13 à 15. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent et ses murs sont renversés. Un peu plus loin, au verset 38 à 40, il est dit ceci. La sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals, et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais y habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, comme Sodome et Gomorre, et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel. Elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. La ville n'a pas été déserte du jour au lendemain, mais à travers les siècles, ce que Dieu avait annoncé s'est réalisé. Et aujourd'hui encore, Babylone n'est plus habitée, donc la prophétie est encore d'actualité. La deuxième prophétie se trouve dans le livre du prophète Daniel, qui était captif à Babylone de 605 à 536 avant Jésus-Christ. Et le prophète Daniel annonce au petit-fils de Nabuchodonosor, qui avait manqué de respect vis-à-vis de Dieu en utilisant la vaisselle d'or du temple pour célébrer les dieux babyloniens. Et soudain, les doigts d'une main apparaissent et gravent sur le mur un texte que Daniel traduit au roi et à son assemblée. Je vous le cite, Daniel chapitre 5, verset 25. « Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptée, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesée, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisée, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Je vous cite également la troisième prophétie. Dieu, par l'intermédiaire du prophète Isaïe, annonce 130 ans à l'avance qu'elle tomberait et qui la ferait tomber et de quelle manière cela se passerait. Isaïe, chapitre 45, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. » pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Comme Babylone paraissait imprenable, Cyrus détourna l'Euphrate et passa par-dessous, c'est-à-dire que ses soldats pénétrèrent par le lit du fleuve détourné. À l'intérieur de la ville, les portes qui donnaient accès à l'Euphrate étaient restées ouvertes et la ville tomba rapidement aux mains des Perses. Et ces deux prophéties se sont réalisées en 539 avant Jésus-Christ.
Alors vous nous avez présenté là trois exemples de prophéties qui annoncent des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'elles sont toutes comme cela ?
Non, heureusement. À travers ces prophéties, il y a la bonne nouvelle. Et elle sera pour tous ceux qui veulent bien y croire et l'accepter.
Alors avec ces éléments, on comprend que les aspects historiques et prophétiques de la Bible sont fiables. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs démontré la véracité du texte même de la Bible. Mais vous nous avez dit plus tôt dans ces émissions que le centre du texte de la Bible, c'est Jésus. Alors, quel est le but de ce livre ? Je vous propose qu'on puisse voir ensemble la réponse à cette question dans une prochaine émission. À bientôt, Philippe.
Merci, au revoir.